Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Aujourd'hui un sujet hautement d'actualité, comme vous l'aviez souligné toi tout à l'heure, la cybercriminalité.
Absolument. Et puis petite précision, Radio France venant de m'informer de la fin de ma collaboration, j'aurai plaisir à saluer vendredi nos amis auditeurs après notamment 33 ans d'enjeux internationaux. Alors ceci sans rapport avec cela, effectivement, nous pouvons être soupçonnés, mon invité et moi, Lionel Escafre, d'y être pour quelque chose, puisque nous avons choisi ce thème il y a quelques jours ensemble et que l'actualité, hélas, nous donne raison. Alors, la cybercriminalité, pardon.
On ne va pas en tirer de conclusion trop vite.
Non, pas tout de suite. Les moyens de lutte, donc Lionel Escafre, commissaire au compte, professeur des universités, Université d'Angers. Ces cyberactivités et ces cybercriminalités sont récentes, elles sont devenues globales, complexes, voire évolutives. Les capacités des moyens techniques sont exponentielles. La perspective des dossiers clés est sans cesse changeante. En plus, le droit manque de repères, invente souvent sa propre grammaire. Alors d'abord, on va peut-être essayer de voir ce que c'est que la cybercriminalité.
Voilà, la cybercriminalité, en fait, est classiquement, je dirais, organisée sous quatre domaines. Tout d'abord, ce que l'on appelle la cybermenace, c'est-à-dire l'espionnage, tout simplement l'espionnage industriel au moyen d'outils numériques. Deuxième élément important, tous les aspects qui sont liés à obtenir un avantage concurrentiel. Alors non pas cette fois-ci en espionnage, mais plutôt en vol de données, c'est-à-dire récupérer en fait les données d'une entreprise pour enrichir par exemple son fichier client. Créer ensuite un cryptovirus. On le vit effectivement aujourd'hui et l'actualité est assez riche pour le rappeler.
Il faut dire juste, enfin, Lionel Escafre, il s'appelle apparemment ce virus Petya.
Petya, exactement, avec une origine, semble-t-il, en Ukraine et en Russie et qui se répand aujourd'hui dans le monde entier. Et puis, il ne faut pas oublier que la cybercriminalité, c'est aussi la réputation, c'est-à-dire l'atteinte à la réputation d'une entreprise ou l'atteinte à la réputation d'une personne physique. Ça fait partie aussi, évidemment, des problématiques de cybercriminalité. Globalement, on peut quand même rappeler que la cybercriminalité consiste principalement à être un enjeu économique. Aujourd'hui, les fraudes sont principalement des fraudes économiques, à la fois, comme je le disais, en termes d'espionnage industriel, mais aussi en termes d'extorsion de fonds avec des demandes de rançon. On a plus de, je dirais, d'enjeux privés aujourd'hui sur la cybercriminalité, d'enjeux publics, mais peut-être que nous ne connaissons pas assez bien aujourd'hui ce qui se passe aussi entre les États, parce que la cybercriminalité, c'est aussi un outil de guerre entre les États.
Alors cette attaque d'ailleurs d'hier, qui apparemment est de grande ampleur à un niveau mondial, a visé les entreprises, y compris les aéroports, les structures gouvernementales, etc., avec justement, vous le dites Lionel Escafre, demande de rançon.
Alors voilà, une demande de rançon, c'est un mécanisme assez simple. On s'intègre, enfin les hackers ou les pirates informatiques s'intègrent dans le système de gestion ou le système de production d'une entreprise, bloquent définitivement le système et attendent le paiement d'une rançon. Il faut bien évidemment savoir que payer la rançon, c'est en réalité un risque absolument gigantesque parce que l'entité et la victime n'est absolument pas certaine de récupérer la totalité de la maîtrise de son outil industriel. Et puis un autre aspect, c'est qu'il faut bien voir que le pirate informatique peut très bien s'intégrer dans un système, mais le virus peut malgré lui se répandre dans d'autres systèmes, parce que les entreprises, les entités, les institutions sont connectées entre elles. Donc en réalité, la maîtrise du virus n'est pas si simple. Quand on parle d'un virus aujourd'hui qui est en Ukraine et qui est en Russie, je ne crois pas du tout que ce virus ait été lancé forcément avec une volonté d'atteinte mondiale. En réalité, le virus se propage sans même la maîtrise finalement de la personne qui est à l'origine de cette agression.
Ce sont des conséquences exponentielles et des cibles multiples.
Exactement.
Mais qui s'auto-créent.
Et absolument, il n'est pas certain que l'auteur d'un cryptovirus soit en fait en pleine maîtrise finalement de son utilisation et de son étendue.
Alors quels sont les moyens de lutte? Alors on pense évidemment au pouvoir public, on pense aux organisations internationales, l'ONU, on pense à l'Union Européenne.
Bon, l'Union Européenne a mis un petit peu de temps quand même, l'Europe des 28 a mis du temps à coopérer, à collaborer, parce qu'évidemment coopérer et collaborer c'est échanger des données, et donc échanger des données économiques ou des données stratégiques. Aujourd'hui, il existe l'ENISA, qui est une agence européenne qui vise à identifier les bonnes pratiques, qui vise à responsabiliser les acteurs sur la lutte contre la cybercriminalité. Mais depuis la convention de Budapest qui a été signée en 2013, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'avancées juridiques sur le sujet. Il faut savoir que la cybercriminalité, c'est un délit bien sûr pénal. Le problème, c'est que le délit pénal se heurte au principe de territorialité, alors que la cybercriminalité, c'est justement au contraire, pas de territoire, un caractère totalement anonyme de la personne auteur de ce méfait. Et donc, la réponse pénale est évidemment, surtout la réponse pénale nationale, est particulièrement insuffisante.
Il y a des similitudes à la fois avec la mafia, enfin les fonctionnements des mafias et avec le terrorisme, parce qu'on ne sait jamais qui est le coupable finalement. C'est une sorte d'invisibilité du coupable.
Voilà,
ou des coupables.
Absolument, du coupable, des coupables, et même parfois même de la raison aussi pour laquelle l'attaque a été réalisée. Et puis aussi une confusion probable entre la sphère privée et la sphère publique. On ne peut pas nier qu'il y a certains États dans le monde qui sont suspectés de participer à des attaques cybercriminelles. Et on ne peut pas non plus ne pas imaginer que certaines entreprises soient aussi complices parfois de certaines agressions dans un contexte concurrentiel.
Alors il y a les États quand même aussi, parce que la lutte contre la cybercriminalité, les États, on prête beaucoup aux Américains, aux Israéliens, aux Russes, aux Nord-Coréens.
Alors on prête beaucoup parce qu'on sait bien que les grands pays numériques aujourd'hui, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie. Après, c'est pas parce qu'on est grand qu'on est forcément le premier auteur. En réalité, aujourd'hui, on ne sait pas. On avait parlé pendant un moment aussi, souvenez-vous, de la Corée du Nord. Mais en réalité, il n'y a pas de preuves avérées. On n'en sait rien. Ce sont des suspicions qui sont régulièrement envisagées.
Avancée.
Donc, je crois qu'il faut s'éloigner de toute accusation abusive. Par contre, clairement, au niveau international, il y a aussi une prise de conscience par l'ONU, puisqu'à l'initiative du Brésil et de l'Allemagne, l'ONU est en train de mettre en place un certain nombre de réflexions pour, là aussi, responsabiliser notamment les entreprises sur la protection et la collecte des données. Et puis aller vers la notion de citoyenneté numérique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait tous qu'on peut accéder à des réseaux au moyen de mots de passe ou tout simplement au moyen de code. Mais en réalité, il faudrait aller beaucoup plus loin, peut-être réfléchir notamment à des protections liées à l'accès au réseau par des moyens optiques, par exemple, ou des moyens digitaux, ce qui serait beaucoup plus sécurisant. Et il faut aussi que les acteurs, les citoyens comme les entreprises, aient conscience du patrimoine qu'ils exploitent quand il gère le numérique.
Juste d'un mot, Lionel Escaffe, je rappelle que vous êtes professeur des universités, Université d'Angers, également commissaire aux comptes. Pour la France, qu'est-ce qu'on peut en dire d'un mot? Parce qu'évidemment, c'est capital pour nous.
Mais la France a fait un travail tout à fait intéressant et pertinent. D'abord en créant l'ANSSI, qui est en fait rattaché au Premier ministre et qui est en charge justement avec une vision, enfin un regard finalement un petit peu militaire, de rechercher les bonnes pratiques de protection des réseaux numériques et donc par conséquent de répandre justement cette logique de responsabilisation et aussi de formation dans une optique de sécurité nationale. Et puis un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui la France a identifié ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale, comme par exemple les hôpitaux, ou même une compagnie aérienne.
Les centrales nucléaires.
Ou les centrales nucléaires, bien évidemment, qui, vous pensez bien, peuvent être évidemment très exposées à ce risque. On dit aujourd'hui, par exemple, que le virus Petya a probablement agressé la centrale de Tchernobyl. Donc évidemment, c'est particulièrement inquiétant. Ce qui est particulièrement aussi inquiétant, c'est que les victimes ne sont pas forcément les meilleurs communicants du sujet. Or, pour lutter contre la cybercriminalité, il faut comprendre ce qui s'est passé.
Oui, on ne peut pas donner. On n'affiche pas ces vulnérabilités.
Or, rechercher les bonnes pratiques, c'est comprendre les vulnérabilités, mais évidemment, ça reste un sujet bien souvent qui fait partie du secret des affaires.
Un grand, grand merci de cet éclairage de l'Escaffre. Et donc, nous retrouvons demain, FranceCulture.fr.
Merci à vous, Thierry Garcin. J'en fais tomber mon casque. Et merci à Lionel Escaffre qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en direct, en studio. Et demain, Thierry, il sera de question de quel sujet dans
du modèle du gouvernement chinois, mais vu des gouvernements d'Asie du Sud-Est, avec notre invitée Sophie Boisseau-Durocher.
Eh bien, à demain.